La fille de Goma, Rebecca Kabuo. Une militante de la nouvelle génération de la République démocratique du Congo, qui est affectueusement connue comme l'une des plus jeunes prisonnières d'opinion. Née à Goma, en RDC, en 1994, Rebecca est licenciée en psychologie clinique. Elle a grandi dans un contexte de guerre, de pauvreté, d'injustice sociale et de mauvaise gouvernance, et donc rejoindre la lutte non violente au sein de la LUCHA, lutte pour le changement, n'est pas surprenant. Ceci est un épisode spécial qui est également disponible en anglais. Je m'appelle Farah Aden et je suis passionnée par les droits humains et j'ai été profondément touchée quand j'ai entendu l'histoire de Rebecca. Aujourd'hui, vous entendrez pourquoi. Bienvenue, vous regardez toujours le Globe. Des centaines de Congolais fuient vers l'Ouganda voisin, alors que les combats s'intensifient pour les membres de l'équipe du M23, groupe rebelle et troupes gouvernementales dans la province du Nord Kivu. Alors, avant d'en savoir plus, il faut se demander la raison pour laquelle notre voyage nous amène dans un pays qui est si connu pour ses sources riches en minéraux. En RDC, le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme est composé de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, ou MONUSCO, créée en 2000, et l'ancien Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, créé en 1996. Il s'agit bien d'une affaire de longue date. Ce que nous sommes cependant en train de voir et de lire sont des atrocités des droits humains en RDC qui sont loin des cadres existants qui ont été établis précisément pour protéger et promouvoir les droits humains. On parle ici de violations flagrantes des droits humains sans cesse, tels que des actes de violence sexuelle contre les femmes, des abus et attaques violentes de groupes armés contre les civils, ainsi que le déplacement de civils se traduisant par une énorme crise de réfugiés. Dans un rapport commandé par le Département d'État des États-Unis, il est également indiqué qu'il continue d'y avoir d'autres violations des droits perpétuées par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Ces crimes incluent les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, la torture, la détention arbitraire, les conditions carcérales dures et qui menacent la vie, en particulier dans le cas des prisonniers politiques, ainsi que de graves problèmes concernant l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il y a également eu les pires formes de restrictions à la liberté d'expression, de censure de la presse, d'Internet, de menaces de violence et de violences réelles ou d'arrestations injustifiées de journalistes. Que peut-on faire et comment peut-on comprendre cette situation désastreuse? En 2019, l'espérance de vie en RDC est estimée à 60 ans.
Je suis Rebecca Kabuo, je suis militante activiste des droits humains au sein du mouvement La Lucha. Je suis née à Goma.
Voici un aperçu de la vie de Rebecca qu'elle a partagée avec nous. Elle commence par décrire de manière ludique à quoi ressemble un matin typique de la journée de sa vie. Un petit café, ça vous dit?
Chaque matin, je me lève, souvent. Je me lève le matin, je prends mon café et je commence mes activités avec mon café.
Les premières années d'enfance de Rebecca l'ont façonnée pour devenir la personne qu'elle est aujourd'hui. Parlant de la famille et de l'école, elle décrit les réalités et les souvenirs des années qu'elle a personnellement endurées en grandissant à Goma et plus précisément de comment elle définit son enfance.
D'accord, merci beaucoup pour ce moment pour parler de du moi, du Mali, de, et je peux parler de mon enfance. Je me rappelle que je suis née dans une ville où il y a la guerre, avec tant de conflits. Et quand j'avais une année, il y a eu la guerre à Goma. Je ne me rappelle pas bien l'histoire. Mais ma mère et mes frères m'ont raconté que j'étais petite, j'avais une année. Il y avait la guerre pour la libération de quand Kabila a pris le pouvoir pour chasser les dictateurs Mobutu. Et il y avait l'armée rwandaise, il y avait aussi la guerre du Rwanda qui a secoué un peu notre ville de Goma avec les réfugiés rwandais à Goma. Et pendant aussi mon enfance de 5 ans, 6 ans, 7 ans, il y avait aussi l'éruption volcanique dans ma ville. Je vois mon enfance, je me rappelle de mon enfance, de chaque jour on doit se lever tous les matins pour aller chercher de l'eau, tu dois rentrer à la maison. Et tu dois rentrer, tu dois aller peut-être soit aider ta maman au marché pour vendre de petites choses au marché. Tu dois préparer pour tes frères et tes sœurs. Moi, je voyais ça avec mes grands frères. Ils faisaient ça souvent à la maison. C'est un peu ça l'image de mon enfance. Mais il y a d'autres personnes qui les enfants restaient à la maison souvent. Il n'y avait pas cette ambiance de tout le monde aller à l'école. Donc, c'était juste une partie et d'autres.
Apprendre à vivre en RDC à l'époque où il y avait des réfugiés d'autres pays, comme le Rwanda, avec les préoccupations croissantes et intensifiées en matière de sécurité à l'époque, Rebecca n'était alors qu'un bébé. Maintenant, en tant qu'adulte, Rebecca réfléchit à la façon dont cela l'a touchée.
J'ai pas trop de souvenirs avec l'arrivée de réfugiés rwandais à Goma, parce que j'avais une année, j'étais enfant, même pas une année, parce que c'était en 94, c'était mon année dans... je peux pas dire que j'avais d'amis rwandais, pourtant ils étaient dans des camps, ils n'étaient pas avec la population de Goma, ils étaient isolés des habitants de Goma. En tant qu'adulte, moi, je pense que ça a de répercussions négatives vis-à-vis de la ville ou de la sécurité de notre pays, parce que les autorités n'ont pas pris cette responsabilité de bien gérer cette question de réfugiés rendus sur les sols congolais. Parce que moi, tu as dit une vraie politique de réfugiés rwandais au Congo, ça a créé de l'insécurité dans la région du Nord Kivu, à l'est du pays. Les réfugiés se sont localisés vers le nord de la ville de Goma et ils se sont installés jusqu'à présent. Il y a les gens qui créent de l'insécurité depuis 94, ils sont là.
Dans la République démocratique du Congo, deux générations ont vécu la guerre. Ils sont les regrettables héritiers d'une guerre qu'ils n'ont pas déclenchée. Rebecca raconte à quoi ressemble une journée dans la vie d'un civil congolais ordinaire.
Pour répondre à cette question, moi je pense que chaque jour, le matin, on se réveille, la grande partie de la population de la ville de Goma sont des journaliers d'abord. Ils n'ont pas de contrat de travail. On se lève le matin. On part chercher de l'eau parce que tu ne peux pas faire tout sans avoir l'eau à la maison. Tu pars chercher les petits boulots et souvent les femmes ont cette il chapeaute cette commerce informel avec les petits boulots ou vendre des articles tout au long de routes, Goma. Mais en faisant cela, il y a encore la police qui vient souvent disperser ces mamans qui cherchent quoi manger pour la famille. Et c'est un peu ça la journée de quelqu'un qui vit à Goma, une journée avec... tu n'as pas de l'eau, tu dois aller chercher, tu n'as pas d'électricité, donc tu dois utiliser la braise ou le bois de chauffage. Tu dois aller chercher à manger parce que tu n'as pas un boulot qui va te donner l'argent à la fin du mois. Donc, tu dois te battre chaque jour au quotidien. C'est cette ville. Aujourd'hui, tu peux travailler pour quelqu'un, demain, tu peux aller au champ. Donc, il n'y a pas une vie, une ligne à suivre pour les habitants de Goma. La plupart, il y a d'autres qui travaillent, bien sûr, mais il y a d'autres, la majorité ne travaille pas.
Je voulais savoir si elle pensait que le peuple de la RDC était politiquement polarisé ou si les gens étaient vraiment tracassés par la survie et l'espoir. Je me demandais aussi si les gens avaient une idée de ce que ce serait de mener une vie normale et stable.
C'est pas du tout évident d'avoir de l'espoir quand tu n'as pas de sécurité, quand tu n'as pas les petites choses, les besoins sociaux de base, comme avoir de la nourriture, avoir de l'eau, avoir l'électricité, avoir une bonne éducation ou la santé. C'est pas toujours évident d'espérer, en fait. Mais on a cet espoir. Moi, personnellement, j'ai cet espoir de voir les changements. Au commencement de la lutte, c'était fondé sur... la première action de la lucha, c'était sur le travail. C'était fondé sur cette indignation des jeunes qui terminent les études mais qui n'ont pas le travail. Donc, il y a quelque part les gens qui ont l'espoir pour voir les choses, ils pensent que les choses vont changer. Et il y a d'autres qui se préoccupent de leur survie journalière. La question politique n'était pas tellement intégrée dans la population avant 2016. Les gens n'en parlaient pas, presque pas, de la question politique. Mais aujourd'hui, depuis ces vagues, ces mouvements de la lucha ou d'autres politiciens, quand on a commencé à parler des questions électorales, les gens ont commencé à un peu s'intéresser sur la question politique dans notre pays. Aujourd'hui, tu peux trouver les mêmes des mamans au marché en train de vendre des braises ou, je sais pas, des tomates ou quelque chose d'autre, commencer à discuter sur une question politique, quelque chose qui n'était pas auparavant dans la population. Et donc, aujourd'hui, les gens commencent à prendre cette question politique comme leur... c'est leur droit de savoir ce qui se passe au niveau de nos dirigeants. Mais il y a d'autres qui ne s'intéressent pas à la question, bien sûr. Souvent, les femmes, des fois... Je pense que c'est une question d'hommes, mais c'est une question de cette classe qui a étudié, des gens qui ont eu des diplômes ou qui sont déjà directement dans la politique. Donc, c'est pour eux, c'est pas pour nous.
Comme c'est le cas pour plusieurs défenseurs des droits humains en Afrique et dans le monde entier, il y a toujours une histoire, il y a toujours un moment précis qui a mené à la décision consciente de se mettre en première ligne dans la défense des droits humains. Rebecca se réfère passionnément à cela comme comme étant son pourquoi.
Et quand je suis en 2012, quand il y avait la guerre du M23 dans notre partie de la ville, notamment au nord Kivu, les soldats rwandais se battaient à Goma. Et c'était le début, en fait, de la lucha du mouvement de jeunes à l'époque à Goma. Et mon grand frère, il était président de la société civile qui a aussi initié, qui a aussi été avec les jeunes qui ont commencé la lucha. Et je voyais ce courage. Je voyais les dévouements des jeunes qui disaient non et pourtant c'était comme interdit de demander quoi que ce soit au niveau des autorités. Je me suis dit pourquoi pas moi? Pourquoi moi ne pas s'engager à cette lutte qui est noble, qui est non violente? Et nous savons bien l'histoire de notre pays, tout se passe dans la violence. Et en 2013, il y avait une grande campagne. Moi, je n'étais pas encore militante en 2013, mais mon frère me parlait souvent de la lucha. Et quand il y a cette grande campagne de Goma Vedelo, je me suis dit, c'est le bon moment de m'engager parce que j'étais indignée de la question d'eau dans la ville. C'était la grande campagne de lucha de Goma Vedelo. Et depuis ce jour-là, je me suis engagée dans la lucha jusqu'à présent.
Lucha est un mouvement de la société civile de jeunes non-violents et non-partisans fondé en juin 2012 à Goma, la capitale du Nord Kivu. Lucha, qui a fêté cette année 10 ans d'existence, et ses membres, ont joué un rôle déterminant dans l'organisation de la société civile pour appeler au respect de l'état de droit et des droits humains en RDC. Rebecca partage un moment mémorable du temps passé et le travail qu'elle a fait au sein de Lucha.
Oui, il y a des répercussions quand on est militant, quand on est activiste des droits humains dans notre pays. Encore avec quand Kabila a été au pouvoir, l'ancien président de la RDC, il y avait des répressions. Il y avait des répressions, il y avait des kidnappings, il y avait des cas de mort. Et pour moi, j'ai participé à plusieurs actions pour demander de l'eau, pour demander l'électricité, des bonnes routes, l'éducation, les élections. Pour les maisons de télécommunication, pour avoir l'Internet, ou que chaque population ait la possibilité d'avoir même son téléphone pour acheter les unités, des fois d'acheter des crédits. Et les réseaux de télécommunication couper les crédits sans explication. Donc, on a fait des actions aussi pareilles et ça nous a valu plusieurs emprisonnements. Ça nous a valu plusieurs arrestations. On nous battait dans des manifestations. Et moi, j'ai été arrêtée plus de 13 fois. Une fois, j'étais torturée et j'ai même des cicatrices sur mon corps. J'ai été même opérée sur ma jambe droite à cause de fouets de police. J'ai fait la prison 3 fois et la plus longue, c'est quand j'ai passé 6 mois en prison et condamnée. C'est difficile d'en parler souvent parce que tu le vois, tu es en train de revivre ces moments de répression et pourtant tu sais toi-même que c'est pour une bonne cause. Mais tu vois quelqu'un tu vois le policier qui est en train de te réprimer, il n'a rien, il n'a pas même d'eau, il n'a pas l'électricité, ses enfants ne partent même pas à l'école, mais mais c'est le policier qui est en train de te réprimer. Tu te dis, et des fois on est confuse. Des fois personnellement tu te dis, c'est quoi ça au juste? Et c'est difficile pour la famille de s'engager dans telle lutte. Voilà, c'est ça le pourquoi de mon engagement. Donc, j'étais indignée de la question d'eau. Mais d'autres suggestions, d'autres luttes sont venues après. Mais la grande, c'était pour avoir de l'eau à Goma.
Rebecca est encore parmi plusieurs femmes qui défendent les droits humains travaillant en RDC. Imaginez ce que ça doit être. Elle nous décrit à quoi ressemble l'activisme en général et plus particulièrement ce qu'implique le fait d'être une femme qui défend les droits humains dans un environnement qui voit des crimes odieux contre les femmes.
C'est pas facile. C'est pas facile d'être femme et activiste. D'abord, nous avons grandi dans un système patriarcat où c'est l'homme qui dirige, c'est l'homme qui décide, c'est l'homme qui dicte les règles du jeu. C'est pas facile, pas du tout facile. Aussi d'être dans un mouvement où il y a 90% d'hommes. Et pour moi, ça a été difficile parce que, dans le sens, c'est ma mère qui en subissait au début, c'est ma mère qui en subissait des conséquences en disant qu'elle n'a pas bien éduqué sa fille. Donc, elle a échoué de. Parce qu'avec ce système patriarcat, on sait bien que si les enfants sont bien éduqués, ils évoluent très bien, c'est la gloire du père. Et quand il y a une fille ou même un garçon qui dérape, c'est la responsabilité de la femme. Donc, ma mère était en difficulté parce que même la famille, on faisait des réunions en disant que ma mère n'a pas bien éduqué sa fille. Parce que je me suis engagée dans la lutte. Encore faire la prison, c'était tellement difficile pour elle. Et être arrêtée plusieurs fois. Cette perception que nous avons de la prison aussi, chez nous en RDC ou en Afrique en général, que les femmes ne peuvent pas aller en prison. Et du coup, ça donnait une image contraire à ma mère et à ma famille restreinte. Et c'est tellement difficile pour elle au début. Mais aujourd'hui, moi-même, je sens de prendre cette responsabilité dans le sens de parler avec les gens, de discuter avec les gens, de donner mon point de vue. Au début, c'était même difficile pour moi de comprendre le pourquoi de mon engagement aussi. Mais aujourd'hui, je comprends que c'est la femme qui souffre en réalité. En première place, c'est la femme qui souffre. Si nous voyons les cas de l'insécurité, nous prenons juste cet exemple de. C'est la femme qui engendre l'humanité, en fait. C'est la femme qui donne la vie. C'est la femme qui. C'est son enfant qui va être kidnappé. C'est son mari qui est dans des groupes armés. C'est sa fille qui est violée. C'est la femme qui doit se lever tôt le matin pour aller chercher d'eau. C'est la femme qui doit arrêter ses études pour se marier. Et du coup, moi, je vois que c'est la femme. Les tâches ménagères, c'est la femme. Chaque jour d'après, presque chez nous au Congo, c'est. Ce n'est que les femmes qui font des tâches ménagères. Donc, c'est la femme qui souffre. Donc, moi, je pense que c'est la femme qui doit être au premier plan de la lutte. Et je pense que c'est la femme qui doit s'engager. C'est la femme qui doit être à la première ligne de la lutte. C'est pas facile, bien sûr, mais si on prend conscience de nos souffrances, de ce que nos mamans ont traversé. Aujourd'hui, je pense que la lutte, elle doit être chapeautée par les femmes.
Je voulais savoir plus sur son engagement auprès d'agences et d'organisations internationales qui ont reconnu sa passion et sa fermeté sur ce chemin incertain vers une République démocratique du Congo pacifique envisagée.
Oui, j'ai été saluée par plusieurs médias internationaux ou les agences. C'est bien, en fait. C'est bien d'avoir reconnu ma lutte. C'est bien que de recevoir le prix ou voyager, aller dans des conférences, parler de ma lutte. Mais tant que la population ne comprend pas cela, pour moi, je pense que c'est une cause perdue. Tant que ce n'est pas mon pays qui ne reconnaît pas ma bravoure. Je pense que c'est bien, en fait, d'avoir le prix, c'est bien d'avoir cette renommée internationale, mais c'est bien d'être reconnu dans son pays. C'est bien. J'aimerais que ça soit le gouvernement, que ça soit les organisations de mon pays qui reconnaissent ma bravoure ou mon engagement dans la lutte. Mais bien, bon, je l'ai dit, merci d'avoir reconnu ma lutte, mais j'aimerais bien que ce soit les organisations de mon pays qui reconnaissent cette lutte.
En tant que jeune défenseuse des droits humains et surtout citoyenne congolaise, je voulais savoir quel était le rêve de Rebecca pour l'avenir de la RDC. Il faut se demander si l'idée de liberté et de paix peut être réalisée pour la RDC avant l'arrivée de la prochaine génération.
C'est incertain de parler de l'avenir, mais je pense que c'est possible. C'est possible. C'est possible d'avoir un avenir meilleur, de vivre dans un pays là où il y a la paix. La responsabilité revient à la population et aux autorités. Et le plus grand travail que nous faisons aujourd'hui pour dans la lutte, c'est de rendre cette population exigeante. Nous voulons que cette population prenne conscience de ses responsabilités, de son pouvoir, comme la définition de comme la définition de la démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Tant qu'il n'y aura pas cette prise de conscience de la population, je pense que l'avenir sera toujours flou. Mais si la population revient à son pouvoir, prend son pouvoir, je pense que l'avenir sera meilleur. Parce que ces dirigeants qui nous dirigent aujourd'hui, ils proviennent d'où ? Ils proviennent de la population. Donc, il faut éduquer la population pour avoir des dirigeants responsables. Je pense que c'est ma perception d'avenir de rendre cette population exigeante vis-à-vis de ses droits, de ses devoirs. Et ensuite, on aura des dirigeants redevables et il y aura un pays en paix, en sécurité, avec de l'eau, l'électricité, l'éducation. Donc, chaque dirigeant ou chaque responsable, il doit faire son travail parce qu'il sait bien qu'il y a une population derrière lui qui va, cette population va les booster, va les demander des comptes. C'est ça ma perception de l'avenir. Et j'ai l'espoir que la population va prendre cette responsabilité. Et c'est le pourquoi encore de c'est pourquoi que je continue. C'est pourquoi que je continue toujours avec cette élite.
La réflexion sur cet épisode m'a amenée à un endroit différent et à une compréhension différente de ce conflit continu et implacable qui ravage la population et le terrain de la RDC depuis des années. Rebecca parle de ce souvenir du conflit comme faisant partie de grandir dans un contexte de pénurie et de rareté. Grâce à la lueur d'espoir, de volonté et de courage de sa mère et son frère, Rebecca continue à se battre pour ce qui est mieux, pour ce qui est juste. Le peuple de RDC vive au jour le jour en mode survie, aspirant à la certitude. Ses propres récits de capture et de torture ont laissé des traces indélébiles dans sa mémoire. À quoi ressemble 26 ans pour Rebecca Kabuo, une fille de Goma? De l'une de nos plus jeunes prisonnières d'opinion, à vos oreilles et à vos cœurs. Mon droit, votre droit, notre droit, l'humanité est pour nous toutes et tous. Vous venez d'écouter notre troisième épisode de la troisième saison de Droits humains, parlons-en. La Fondation Friedrich Naumann pour l'Afrique subsaharienne, FNF, est une organisation allemande indépendante qui s'engage à promouvoir les idéaux et la politique libérale en Afrique tels que les droits humains, l'état de droit, la démocratie, l'innovation, la numérisation et le libre-échange. En menant des campagnes, des événements médiatiques, des séminaires, des ateliers, des voyages d'études, des événements culturels et des cours de formation, la Fondation promeut les droits humains, y compris la liberté d'expression, la liberté de presse, les droits des enfants et les droits LGBTQIA+, et s'engage contre la violence envers les femmes ainsi que la peine capitale. Si vous êtes intéressé par nos activités, suivez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter. Il suffit de rechercher Fondation Friedrich Naumann Afrique.